Bonsoir, vous êtes bien sur IDFM, sur IDFM, la radio du bien-être. Bienvenue dans notre émission Entre chiens et loups, l'émission culture d'IDFM avec Claude Lévy. Ce soir, c'est l'été, c'est la chaleur, c'est le jour le plus long et c'est surtout la lumière. Ce soir, c'est à une invitation très rare que je vous convie à une rencontre avec des personnages puissants, des personnalités qui ont marqué le siècle et dont la lumière continue de nous éclairer. Mon amour, ma lumière, c'est avec ces deux mots que mon invité nomme l'homme qui a vécu auprès d'elle ces 30 dernières années. Cet homme n'est autre que le très célèbre chirurgien cardiaque, le professeur Christian Cabrol. Disparu il y a tout juste 5 ans, le 17 juin 2017. Et celle qui a accompagné ces années est une très célèbre comédienne de théâtre, de cinéma aussi, bien sûr, sociétaire de la Comédie Française. Elle a joué tous les grands rôles du répertoire. Et avec elle, nous allons évoquer sa vie de comédienne, sa vie d'amoureuse et bien sûr, sa vie avec Christian Cabrol. Bonsoir Bérangère Dautin Cabrol.
Bonsoir Claude.
Tout d'abord, merci de nous recevoir chez vous à Paris, dans cet appartement situé non loin du Palais Royal et donc de la Comédie Française.
Oui, j'y allais tous les jours. Il me fallait 10 minutes quand je partais de la maison et il me fallait 10 bonnes minutes pour aller jusqu'au Palais Royal, encore traverser ce merveilleux jardin et hop, j'étais dans ma loge. Il fallait 10 bonnes minutes.
Voilà, nous sommes vraiment dans votre environnement depuis des années et des années.
Oui, et j'aime cet immeuble où je vis, parce que Passage du Panorama, c'est là, c'est fondé sur les restes de l'hôtel Montmorency, qui avait été racheté en bien national par un Américain très riche qui s'appelait Tyler. Et il avait racheté l'hôtel et toutes les terres autour. Et il s'est dit, qu'est-ce que je fais avec ces terres maintenant? Eh bien, je vais faire un passage avec des commerces. Passage des Panoramas. Et Panorama, c'était les premiers cinémas. Et tous les immeubles dont nous dépendons, 34, 36, 38, 38 bis, c'est encore une communauté de ce qui reste de tailleurs.
Fantastique histoire. Alors, dans ce livre de souvenirs que vous venez de publier aux éditions L'Archipel, Christian Cabrol, Mon amour, ma lumière, il était évidemment dédié à votre mari. Vous écrivez sur votre enfance, vous écrivez sur votre jeunesse, vous écrivez sur vos rencontres, sur vos drames aussi, sur votre passion pour le théâtre et sur ce que la vie a fait de vous. Ce qu'elle a fait de vous, je dirais qu'elle a fait une femme d'une énergie absolument incroyable. On le voit dans votre façon de vous déplacer, on l'entend à votre voix. On peut dire votre âge ?
Oui, bien sûr.
On peut dire que vous avez un tout petit peu plus de 80 ans. Et chaque matin, vous êtes vous, à la barre, vos exercices physiques, vous faites de la barre au sol.
Alors, tous les matins, à quelque heure que ce soit, même si c'est en tournée, même quand j'ai fait un voyage avec Sylvia Viaro en Namibie, fallait se lever très tôt pour aller voir les guépards, et ben je me suis levée encore une demi-heure plus tôt, elle était stupéfaite, et j'ai fait ma barre au sol, même avant d'aller voir les guépards. C'est tous les jours. Si vous manquez un jour à une discipline, ce sera le lendemain, puis vous lâcherez. Tout est de faire chaque, devoir décider dans sa tête, je le ferai chaque jour.
Qu'est-ce qui vous a donné cette énergie, Bérangère ?
J'avais pas le choix. Mon père ne me voulait pas. Donc, comment vous dire, il fallait ou se suicider ou vivre. Voilà, et donc la chance de ne pas me suicider m'a été donnée le jour où j'ai entendu par-dessus le mur ce fameux mur.
Qui est... On va y venir au mur. Revenons un tout petit peu à la naissance de Bérangère au Maroc, À Rabat.
À Rabat, ben, à Rabat, je ne m'en souviens guère. Je me souviens surtout de la maison de Marrakech, parce que c'est là où j'ai été un peu plus consciente. Voilà, donc j'ai souvenir d'une grande maison blanche où j'attendais, dès que mon frère est parti pour l'école, je l'attendais comme un petit chien. J'attendais le retour de mon frère sur le perron, parce qu'il n'y a que lui qui m'aimait, ma mère étant malade, mon père étant le terrible militaire qui ne m'aimait pas. Et puis j'avais les odeurs du jardin, ces odeurs spéciales du Maroc. Voilà, j'ai souvenir de cette maison blanche, de la Fatma, du Boy, et c'est à peu près tout ce qui me reste du Maroc.
Et plus le taboulé, alors vous parlez beaucoup du taboulé.
Tous les jours, j'ai mon taboulé à midi, hein. Voilà, tous les jours.
Alors, cette maman qui est malade, elle reste assez mystérieuse pendant toute une partie de votre enfance. Et ce qui reste mystérieux, c'est la maladie qui l'a contraint à vivre d'une manière très, très particulière.
Ben, en plus, une maladie culpabilisante, parce que c'est à ma naissance qu'elle a attrapé cette maladie. Donc c'est horriblement culpabilisant. J'ai su après que si ma mère était ce fantôme en robe blanche qui était près de moi et que je ne pouvais pas sentir, c'est moi, en naissant, quelque chose avait du mal se passer. Elle a pris une infection qu'on ne pouvait pas guérir. À l'époque, il n'y avait pas les antibiotiques. Donc, toutes mes premières années, jusqu'à l'arrivée en France, ma mère a été malade à cause de moi. Donc, pour une enfant, c'est horriblement culpabilisant.
Vous continuez à penser à cause de moi ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, à cause de moi. Sinon, elle aurait peut-être été plus heureuse. Enfin, traîner tous les jours une affection pour une femme jeune, parce qu'elle m'a eu très jeune. Donc, oui, je continue à dire à cause de moi.
Votre mère, Madeleine.
Madeleine, oui.
Était issue d'une très grande famille.
Oui.
La famille de Léotoin d'Anjony.
Oui,
c'est bien ça?
Absolument. Pélissier de Féligonde de Léotoin d'Anjony sont tous les noms de la famille, et je tiens à ce lieu-là. Ce sont de mon enfance les seuls bonheurs que j'ai eus, c'est le château, et y retrouver mes cousins, mes cousines, mes flopeurs. On était 20 enfants, enfin j'avais eu une vie de joie. Et puis on se baladait dans les tours du château, on montait dans les voilà, jusqu'au chemin de ronde. Enfin, c'était extraordinaire, cette enfance là-bas. Pour moi, c'est sacré, Anjony.
Cette enfance donc semble privilégiée en fait entre une mère donc qui est issue de cette lignée aristocratique, familiale, de nobiliaire depuis le 15e siècle, et un père qui est officier, qui est un officier médecin de l'armée de l'air, une intelligence suprême,
oui.
Et une très grande beauté.
Ah,
et pourtant, votre enfance n'a pas été une grande partie de bonheur.
Non, pas du tout, puisque d'abord mon père ne me voulait pas, et quand je suis née, on a téléphoné « Docteur, vous avez une très jolie petite fille qui vient naître. » Ah ben, si c'était pour ça, ma sœur, ce n'était pas la peine de me réveiller. Ça a été sa réflexion. Il ne me... Donc ça, encore un garçon passe, mais une fille, et il disait toujours « Vous n'êtes rien, vous n'êtes qu'un ventre pour une autre famille, vous n'êtes rien. » Toute mon enfance, j'ai entendu ça, que j'étais rien. Donc il fallait bien que je lui prouve que j'étais. Et quand j'ai eu mon premier prix, première nommée, à 21 ans, dans ma tête, j'ai pensé, tu vois, papa, ils savent, eux, que j'existe. Voilà.
Et vous êtes devenue la comédienne immense dont on va parler dans un instant. Cette attitude, cette humiliation, cette blessure permanente
de l'enfance,
parfois un coup de cravache.
Ah oui, carrément. Ça, j'ai le souvenir, j'étais vraiment très petite, et il me faisait tourner autour de lui avec sa cravache, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais pu faire. Et je hoquetais, je tournais avec ses coups de cravache, et dans ma petite tête, j'avais peut-être 4 ans. Allez savoir. Et je savais, je me disais en moi, il n'a pas le droit de le faire. Je savais déjà qu'il n'avait pas le droit. Et après, ma mère m'a dit, tu sais, s'il y avait eu à l'époque des associations pour la défense des enfants, j'aurais appelé, mais ça n'existait pas.
Oui, d'ailleurs, il y a quelques lignes qui sont très bouleversantes, comme une sorte de conseil aux parents dans votre livre, pour leur dire à quel point c'est important de les respecter, vous qui avez été humilié et blessé.
Oui, ça c'est tellement... c'est un manque ineffaçable. L'humiliation d'un enfant et le manque d'amour. Heureusement que j'ai eu mon frère. Heureusement.
Olivier.
Mon frère Olivier, que je vous dis, que dès qu'il est parti, il avait 2 ans de plus que moi, il a commencé à aller à l'école. Et je n'avais que ça. Et quand il partait, je faisais comme le chien. Je me mettais sur le palier et j'attendais son retour. Je n'avais que lui.
Mais par contre, il fallait... vous êtes forgé une sorte de personnage assez dur, assez silencieux, parce que la moindre réflexion que vous pouviez faire pouvait engendrer d'autres remarques très très destructrices de la part de votre père. Donc vous dites, reste très digne, reste mystérieuse.
Et ma maman m'appelait la Joconde. Oui, absolument. D'abord, elle m'appelait la Joconde pour ce sourire que j'étais tout le temps, ce sourire qui cachait tout. Voilà, et à la Comédie Française, quand je suis arrivée, on m'appelait, quand je suis devenue sociétaire, on m'appelait en revanche l'implacable. Parce que j'avais tellement lutté pour arriver à vivre simplement, pour arriver à être la première partout et arriver à être sociétaire, que je ne supportais pas les manquements, les imperfections, enfin je ne supportais pas. Donc c'est pour ça, j'étais implacable.
Autre aspect de cette enfance qui est assez austère, c'est l'argent, ou plutôt le manque d'argent. On ne dépensait rien, il fallait faire attention à tout, et on avait peur de gaspiller. Est-ce que c'est bien ça? Jusqu'au point que vous dites dans le livre que parfois vous aviez faim.
Eh bien, c'est-à-dire que... Non, j'ai vraiment eu faim un jour quand j'ai quitté mon père à 21 ans et que je me suis retrouvée sur le trottoir là et là, rien, j'avais ma robe, mon sac, je suis partie chez mon petit ami de l'époque qui est devenu mon mari obligatoirement. Et là, je me suis vue regarder un croissant en boulangerie et dire tu peux pas te l'acheter. Il faut que tu attendes qu'on veuille bien te nourrir, tu n'as plus rien, voilà. Mais petite, l'argent était juste, puisque mon père avait une solde de capitaine qui permettait difficilement 2 enfants, et on était toujours nourris de façon frugale avec des raisins, des sauterelles. Enfin, c'était une enfance très... Oui, il y avait l'argent manquait beaucoup. Et ça a duré longtemps, même plus tard, quand elle est arrivée en France. Même chez ma tante, on a débarqué à Lyon, et chez ma tante Madeleine, ou la bonne au grand cœur, ma chère Hélène, qui était, comme on ne sait plus ça, qui faisait partie de la famille, elle posait un plat sur la table, elle disait « il y en a pourtant !» Alors, ça vous coupait déjà l'appétit. Voilà, voilà. Mais la pauvreté m'a poursuivie très... Non, pas la pauvreté. Être juste, faire attention à tout, ça m'a poursuivi très 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 longtemps.
On a beau être d'une grande lignée, avoir le château d'Angeny avec ses 4 grandes tours, et malgré tout, regarder à la moindre dépense.
Ah ben oui, bien sûr, parce que c'était pas les problèmes de mes cousins et cousines, c'était parce que la lignée, mon oncle Henri, ses frères, ses sœurs, c'était ça allait bien quoi. Il n'y a que ma mère qui était vraiment juste. Et on ne voulait pas que ça se sente quand on arrivait au château, quoi, évidemment.
Tout ceci provoque en vous, enfant, quelque chose d'un peu dépressif. Est-ce que je me trompe au point que justement dans le parc du château, il y a une sorte de fontaine, de grand puits.
Non, c'est pas dans le parc du château. C'est dans le pas le château. Rien de le mal pouvait m'arriver là-bas. Non, c'était dans le jardin à Brioude, le jardin de mon grand-père, où j'arrivais toute petite dans la carriole de mon grand-père. C'était petite, quoi. J'avais 6 ans. Voilà, à peine, même pas tout à fait 7. Et donc, c'était dans le jardin du grand-père pendant qu'il s'activait pour essayer de ramasser ou de faire pousser des légumes pour nous nourrir. Voilà, les citrouilles, les asperges, les haricots verts, tout ça. Et il y avait une espèce de grand puisard. Et j'ai souvent eu la tendance d'y aller, de dire, ben voilà, si tu l'as dans le puisard, si tu te laissais tomber dans ce puisard, personne ne viendrait chercher, personne ne saurait que tu es morte. Et j'ai souvent eu cette idée, cette pensée. Voilà. Jusqu'au moment où,
par-dessus le mur, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe derrière le mur de la propriété qui va changer en grande partie votre vision du monde ?
Toute ma vie. C'est-à-dire que, par-dessus, dans ce jardin austère, où j'errais entre les rayons de légumes, il y avait peut-être 2-3 rangées de petites fleurs, des cosmos, des choses, voilà, mais triste. Et puis, tout d'un coup, par-dessus le mur du jardin, j'ai entendu des enfants qui chantaient. Et ce chant m'a happé et je ne l'ai jamais oublié. Je peux encore en chanter l'air. Et je me suis dit, mais la vie, c'est ça. C'est par-dessus le mur du jardin. Ça existe, la vie. C'est là-bas. Il faut être par-dessus le mur du jardin. Et là, j'ai commencé à trouver mon ailleurs. Mon ailleurs. Que regarde-t-il au ciel, ces aveugles ? Il regarde les nuages là-bas, les merveilleux nuages. Tout d'un coup, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Baudelaire, bien plus tard, tout d'un coup, c'est toujours devant. Et voilà, donc ma vie a commencé là. Je savais...
Vous aviez quel âge à ce moment-là ?
Pas tout à fait 7 ans. Pas tout à fait 7 ans. Donc j'avais enfin un but. Et donc, je suis rentrée à la maison dans cette terrible rue Lapardige, étroite, terrifiante, sombre. Et puis, ben, j'ai attendu que 2 ans au moins, que les parents nous récupèrent, parce qu'il n'y avait pas de place pour les militaires à Paris. Donc, mon père y vivait. Et ma mère avait décidé d'élire domicile à Lyon chez une tante, ta marraine, qui avait un merveilleux appartement immense. Et là, j'ai découvert enfin, et ma mère, enfin, j'ai découvert que j'avais une mère. Et quand elle m'a vue arriver, moi toute petite, la tête dans les épaules, c'est ça que j'ai fait de ma fille, ça a été terrible pour elle, terrible. Et elle a redoublé d'amour pour me prouver qu'elle m'aimait, qu'elle allait faire quelque chose. Et elle m'a fait faire de la danse, et j'ai commencé à vivre par la danse. Et puis, ça a duré jusqu'à ce que ma mère, qui voulait tout rattraper de ce qu'elle n'avait pas pu faire, et donc elle s'est dit, tiens, je vais lui faire faire un petit peu de théâtre pour voir. Et là, ça a été terrible, ça a été le mot, la puissance du mot. Et mon premier rôle, ça a été Ondine de Giraudoux. Giraudoux, qu'est-ce qu'on peut dire, trouver plus beau que Giraudoux comme langage. Et donc, ben voilà, j'ai fini par choisir le mot, et par raison. Pas par amour, par raison. Parce que je savais qu'un jour le geste me quitterait, qu'à 40 ans je serais professeur de danse quelque part. Voilà, et que je ferais une, deux, mademoiselle, non, pas ci, pas ça, allez, on lève la jambe. Et si je continuais le mot, il m'accompagnerait, comme je vous le prouve, encore maintenant, à 80 ans passés, le mot m'accompagne tous les jours.
Les mots, on va les entendre, on va continuer de les entendre, mais on va aussi entendre autre chose, c'est le cadeau que vous fait votre maman. Elle vous fait un cadeau inestimable, c'est une bague, et elle vous donne aussi une image sonore. Elle est au piano.
Oh là là.
Et elle joue Jean-Sébastien Bach.
Oui, comme toujours. Mais mon premier contact avec la musique de ma mère, c'est, je suis toute petite, je me cache derrière un fauteuil à Lyon pour l'écouter. Le Bach, voilà. J'ai grandi dans Bach, ma première approche de la musique. J'écoutais, je guettais ma mère, je voulais pas qu'elle soit là. Je l'écoutais jouer Bach.
On écoute un extrait du clavier bien tempéré. Thank you. Vous êtes toujours sur IDFM dans l'émission Entre chiens et loups avec Claude Lévier. Nous sommes ce soir en compagnie de Bérangère Dautin-Cabrol qui vient de publier un livre fort et bouleversant souvent, de mémoire, d'hommage à cet homme, Christian Cabrol, qui a été l'inventeur en France de la transplantation cardiaque et ensuite de la double transplantation cœur-poumon.
Après du premier cœur artificiel également, ça les gens l'ignorent, ça a été lui le premier cœur artificiel.
Qui a créé et qui a mis en œuvre cette opération très
spéciale. J'ai des photos de ça, de ce cœur qui était énorme. Et quand les gens recevaient ce cœur-là, malheureusement, il restait lié à la machine. Après, beaucoup plus tard, ça a évolué. Ils pouvaient avoir leur petite valise avec eux. Vous vous rendez compte, le progrès. Mais mon mari a créé ça, première greffe du cœur. Ça, c'est ça, mais ça a été plus tard, le cœur artificiel, bien plus tard. Mais c'est lui aussi qui a créé le premier.
Alors, à propos de cœur, il y a deux cœurs qui se rencontrent sur un bateau, cours d'une croisière. C'est très romanesque, c'est raconté assez longuement dans le début du livre, parce que c'est vraiment un moment extraordinaire pour vous, qui vont donner lieu à 30 ans de vie commune, et d'amour et de lumière, comme vous le dites. Racontez-nous un peu ce moment de la rencontre très spéciale.
C'est-à-dire que cette croisière, je ne voulais pas la faire. Je sortais d'une aventure avec un monsieur qui était assez infernal, voilà, et je voulais pas faire cette croisière parce que ça m'ennuie, Paul, ça m'ennuie. Et puis c'est ma chère amie Paul Noël qui était ma quasi-sœur, me dit mais si, il faut le faire, viens. Et alors elle me décide, et puis Jean Le Poulain, Paul Noël et moi, c'était la croisière The Must, c'est-à-dire il s'était sur ce bateau le Eugenio Costa. Alors là, Eugenio Costa, le luxe absolu, extraordinaire. Et donc, il voulait, cet anniversaire du Figaro, le 120e anniversaire du Figaro, il voulait The Must. The Must, il y avait trois sociétaires, il y avait les grands écrivains, Jean d'Ormesson, Toussy, tout ça, Amouroux, et puis, de la Comédie Française, il y avait Jean Le Poulain et nous deux. Et puis, je me décide à faire cette croisière, et on arrive, après un voyage déjà pas mal. On s'installe dans la cabine, et puis Paul, qui avait fait ma garde-robe, parce que moi ça m'était égal, dit écoute, mets dans ma valise ce que tu voudras, je m'en fiche. Elle m'avait mis une superbe robe magnifique, noire, en dentelle et tout, et je vais sur le pont avec cette veste, cette robe. Je pense que j'étais très belle parce que je vois tous les regards d'hommes qui se ouf, tout d'un coup ça fait ouf, ils se tournent vers moi. Je dis mais qu'est-ce qui se passe. Ça m'était égal. Bon, et puis moi je vais à la table qui m'est dessinée. Destiné, c'était Henri Amouroux qui me faisait des yeux de poisson frit, voilà. Et je m'ennuyais. Et Paul vient me chercher, me dit viens. Et je vois ce disque, une immense silhouette. Je m'approche d'un immense silhouette et je suis happé par un sourire. J'ai même pas. Elle a juste dit professeur, je vous présente Bérangère Dautin, mon ami Bérangère, je te présente le professeur Cabrol, il est tout seul aussi. Et tout d'un elle est pas, on n'a même pas écouté, nos mains se sont saisies et c'était à l'instant même, et ça a été terminé à l'instant même. On s'est saisi par les yeux, par le regard, j'ai pris sa main, je l'ai mise là sur mon plexus, et puis on ne voulait qu'une chose, être seul, et on n'y arrivait pas. Alors professeur, comment ça va, la pitié t'a pétrolé, oh Bérangère, la Comédie Française, et on a fini par être seul enfin sur le bord du navire, et comme dans les romans de Deli, la bise soufflait, elle était en robe du soir, il était en smoking, ils échangèrent leur premier baiser. Oui, c'est ce qu'on a fait, on a échangé le premier baiser. Et là, il m'a demandé, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et en tant que femme, j'ai juste pris le temps d'une respiration et j'ai dit, je t'expliquerai.
Et voilà. C'était pour préparer l'avenir.
Oui, c'est ça, parce que je me dis, bon sang, qu'est-ce que je vais avoir à faire comme chemin? Et puis voilà comment nous nous sommes rencontrés. Et puis, il partait le lendemain matin, j'ai mis 10 jours à l'attendre.
Qu'est-ce qui vous a tant plu en lui, Christian Cabrol?
Mais tout ce qui se dégageait de lui, je ne peux pas vous l'expliquer. C'était ma moitié de pomme. C'est tout d'un coup, comme c'est les Chinois qui disent ça, que les moitiés de pommes, elles tournent dans le monde, tout d'un coup, paf, elles se réunissent. C'était ma moitié de pomme. C'était mon complément indispensable et je ne pouvais plus rien faire sans lui.
C'est un homme qui avait beaucoup d'exigences. De son côté, il avait un grand-père médecin aussi.
Ah oui. L'histoire du grand-père, ça c'est... Vous parlez de ma volonté, mais si on parle de la volonté du grand-père Cabrol, quand Émile et Christian a tenu à ce qu'une école du village s'appelle Christian-Émile, une école qui était dédiée à Christian. Il a voulu ajouter le nom de son grand-père, Christian-Émile Cabrol. Il est parti de sa montagne noire, rien, sans un sou, les sabots à la main, si je puis dire, et il est parti rejoindre son frère qui avait déjà une situation au chemin de fer. Et puis là, un jour, son frère lui dit, tiens, ben, on va aller à Chézy. À Chézy, c'est un petit village, on va pêcher là-bas. Et il vient à Chézy, il accompagne son frère et il voit, tiens, médecin de santé, écrit sur une porte. Bon, alors il frappe et tout. Et dit, ah ben vous tombez bien, parce que moi vraiment médecin santé, vous voulez prendre ma place? Eh ben prenez-la, vous devenez médecin santé, voilà. Donc il était à la chance, comme Christian, la chance, savoir être à l'affût des choses. Et il est devenu médecin de ce village, il a épousé une riche fermière du coin, et Christian-Émile Cabrol, parti de sa petite montagne noire, est devenu le grand homme du village.
Eh oui, parce que vous racontez très bien comment il se déplace sur son carriole toute l'année et aller sauver les gens.
Ah oui.
Alors, Christian Cabrol, lui aussi, on a sauvé des centaines,
ah oui,
sans doute des milliers de personnes.
Ah oui, vraiment.
Il avait une exigence particulière, c'était l'excellence dans ce qu'il faisait.
Il ne supportait pas, parce que comme moi, on m'appelait l'implacable, c'est pour ça qu'on se rejoignait très bien, et lui, il supportait pas la moindre erreur ou médiocrité. Et je veux dire, c'était une terreur dans son service. Les gens, enfin, à part les intimes, il terrorisait tout le monde. Il y a un interne qu'il n'a jamais oublié. Je ne sais pas quelle bêtise il avait fait, mais il l'a attrapé par le col, il l'a traité tout le long du couloir par le col. Et le pauvre interne disait, mon Dieu, pourvu qu'il se fâche pas, pourvu qu'il se fâche pas. Et voilà, mais il terrorisait les gens, vraiment.
Par son exigence de...
Il le valait bien. Parce que c'était le premier en tout. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que sa mère, que j'ai bien connu sa mère et que j'aimais tant, Lucienne, qui me disait fièrement, il était toujours le premier, parce qu'elle avait le petit accent de son pays, il était toujours le premier. Et quand elle disait ça, elle avait tout dit. Je lui disais, vous l'avez si bien élevé. Et elle me disait, on a fait ce qu'on a pu. Quelle modestie et quel suprême orgueil. Elle
formidable.
A fait ce qu'elle avait dit.
Qu'on rencontre également chez Christian Cabrol, tel que vous le décrivez, à la fois un homme très, très exigeant, avec une haute idée des fonctions, de ce qui lui advenait, et puis en même temps une très grande modestie, avec ce regard d'enfant.
Oh là là, toujours qu'il ne l'a. C'est ça que j'aimais tant. Et tous les matins, quand je l'ai vu, c'est ce regard qui m'a happé, ce sourire. Et tous les matins, je me réveillais avant lui, je le raconte ça. Et quand je venais le réveiller, le premier regard voulait dire « Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes ». Et tous les jours, ça a été ça, jusqu'à la fin. Et un des moments bouleversants, c'est qu'il ne pouvait presque plus parler dans les derniers jours. Et avec ses mains, l'index se dirigeait vers lui, vers moi, vers lui, vers moi. Et ça finissait en un cœur. Ça veut dire que toi et moi, on s'aime, on s'aime, on s'aime. Il ne pouvait plus parler, mais il me disait par les mains.
À propos de mains, vous écrivez des lignes que j'aimerais que vous nous lisiez. Je vais en profiter un peu puisque j'ai avec moi la 450e sociétaire de la Comédie Française, donc je vais la laisser lire ces quelques lignes à propos des mains. Alors, de Christian Cabrol.
Voilà, tes mains de sauveur, tes mains qui redonnaient la vie, combien de greffes as-tu réalisées avec succès? Quand j'étais connu, on parlait de 400 greffes. Combien en as-tu réalisé ensuite? Combien de vies sauvées? Des milliers. Tes mains, dans la joie de mener ton bateau Astérix, tiennent fermement la barre. Tu regardes le ciel, la mer, tu cherches le vent et tu la pousses doucement à droite ou à gauche cette barre en surveillant le gonflement des voiles. Tes mains, dans la liberté joyeuse, elle s'accroche au guidon de ton vélo et tu pédales. Tu as mis le grand braquet et tu avances vite. Je suis derrière toi, mais je sais que tu souris heureux face à la côte que nous allons gravir.
Voilà de quoi il s'agit quand on parle du personnage extraordinairement humble, mais en même temps hors du commun, oui, de Christian Cabrol à propos de ses mains. Avant Christian Cabrol, il y a eu d'autres hommes. Bérengère, évidemment, vous avez vécu, et notamment celui qui a donné, celui dont vous avez gardé le nom, Gilles Dautin. C'était un mariage qui s'est produit, je dirais, dans des conditions un peu particulières, puisque vous ne teniez pas spécialement à vous marier avec lui, c'était votre petit ami, mais son père, qui était assez traditionnaliste, vous a dit, mademoiselle...
Il faut, comme une famille catholique, il faut vous marier. Et donc, contrainte et forcée, j'ai épousé ce jeune homme que j'aimais bien, mais que je n'aimais pas. Et puis, un an plus tard, il revenait de je ne sais quel... il avait été en déplacement, et j'ai ouvert la porte, je lui ai dit, non, tu retournes chez ta mère. Et il a rien dit, il est retourné. Et sa mère, Odette, qui était une femme admirable, qui avait tout à fait compris dans quel traquenard on m'avait mis, a repris son fils. Voilà.
Mais néanmoins, vous vous êtes marié, bien sûr. Et il se trouve que cette Odette, votre belle-mère, elle a toujours été adorable. Mais surtout, dans votre vie, elle a eu une certaine importance puisqu'elle était un peu liée à François Mitterrand.
Elle était liée à François Mitterrand. Et d'ailleurs, pendant toute la guerre et tout le temps, François Mitterrand a protégé les Dautins. Et il m'a souvent... Enfin, on a eu des relations assez fantastiques, François Mitterrand et moi. Mais c'est lié à la protection qu'il donnait à la famille et à sa chère belle-mère Odette, ma chère belle-mère Odette.
Des relations fantastiques, vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus ?
De François Mitterrand, eh bien, il était venu me voir jouer à l'Odéon le suicidé avec l'administrateur, je ne sais plus lequel d'ailleurs, que je n'avais pas une affection particulière pour cet administrateur-là. Et à la fin de là, tout le monde disait « François Mitterrand est à la salle, François Mitterrand !» Enfin, tout le monde était le doigt sur la couture. Et à la fin, bah, on l'attendait en scène, comme ça se fait pour tous les administrateurs qui viennent. Et donc, l'administrateur l'amène en scène pour présenter protocolairement la troupe. Et non, lui, il fonce sur moi, à la stupéfaction de tout le monde. Et il m'emmène dans un coin. La première phrase, c'est « Comment va Odette ?» Et de là, je lui ai donné des nouvelles d'Odette et tout. Et après, quelques jours après, vous vous imaginez la tête des autres. Hein. « Ouais, ouais, pourquoi ?» Eh bien, quel cachotière, cette Dautin, quel cachotière, et voilà. Et donc, un jour, le téléphone a sonné ce matin. Allô, secrétariat de l'Élysée, le président vous attend tel jour pour déjeuner. Et j'ai eu ce déjeuner fabuleux que j'oublierai jamais, dans le petit salon vert, et rien que lui et moi. Et il s'est dit des choses ce jour-là, mais inoubliables, et j'étais stupéfaite du charisme de cet homme, de l'intelligence. Cet homme aurait séduit le monde entier, il a séduit le monde entier. Voilà mes souvenirs, et on est toujours restés liés le plus qu'on a pu.
Et il a même pensé à vous appeler au moment où il s'agissait de nommer un nouvel administrateur de la Comédie française. Il vous demandait votre conseil.
Il m'appelait n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Et voilà, pour des choses quelquefois aussi simples. Un jour, j'étais stupéfaite, je décroche, il m'a dit « Tu fais la cuisine ?» J'étais... Oh. Oui, ben voilà. Mais il pouvait être tout à fait. Et puis le jour de la nomination de Fabius, hein, il m'a. Alors, pas mal, hein? Voilà, comme un gamin, comme un gamin. Il était heureux de, et on avait des conversations comme ça. Et puis un jour, il m'appelle, il me dit, mais alors, dit, Bérangère, dites-moi, parce que c'est toujours, moi, bien sûr, monsieur le président. Et il m'a toujours, vous voyez. Et alors, si le poulain, ça irait comme administrateur? Eh ben, j'ai dit oui. Mais j'aurais dit non, le poulain n'aurait pas été administrateur.
Oui, et donc c'est une. Vous avez connu à peu près tous les présidents.
Oh, oui, oui.
Vous avez connu un tout petit peu De Gaulle, vous avez connu un peu Giscard et puis
oui,
Pompidou.
Giscard que j'appréciais pas trop, je veux dire, parce que autant De Gaulle, l'image de De Gaulle m'a inoubliable à vie. Quand vous avez une fois cet homme en face de vous, c'est inoubliable. La puissance, on parlait de charisme, la puissance de cet homme fabuleux. Mais Giscard, c'est. Oui, c'est. Je n'ai pas gardé belle impression de lui.
Mais les Pompidou, vous vous souvenez,
Pompidou,
très bien.
Adoré. Et je souvenir aussi inoubliable d'un dîner où on avait donné une petite fête chez eux. À l'époque, les présidents recevaient la Comédie Française. Et nous étions restés, Paul Noël et moi, dans leur petite bibliothèque. Et ce moment intime de ces deux êtres authentique, vrai, simple, je ne l'oublierai jamais. Et il m'avait parlé de ce poème qu'il aimait tant, Comprenne qui veut, sur d'Éluard, sur Gabriel Russier, qui s'était suicidé, parce qu'à l'époque, elle avait aimé un jeune homme qui n'était pas majeur.
Un élève à elle.
Un élève à elle, voilà, elle s'était suicidée. Et il nous avait parlé beaucoup de ce poème, et des années plus tard, quand sa veuve, dans le centre Pompidou, m'a demandé de faire un hommage, bien évidemment, j'ai dit « comprenne qui veut », évidemment.
Vous avez connu évidemment tous les grands comédiens du XXe siècle et ceux qui ont suivi aussi au XXIe siècle. Et je pense à la tournée que vous faites à Moscou avec Michel Etcheverry.
Oui, oui.
Voilà, un personnage en soi, avec ce visage tellement particulier.
Médaille, coupé. C'était un profil de médaille romaine. Il était d'une beauté fabuleuse et avec lui, je suis tombée amoureuse de lui tout de suite. J'avais 24 ans et il avait 20 ans de plus que moi. Mais ça a été un amour immédiat et avec lui, j'ai en très peu de temps appris le ciel et l'enfer. Parce qu'il m'a appris bien plus que des années de philosophie. J'ai vu ce que pouvait être un homme qui pouvait toucher le ciel dans tout ce qu'il me disait, mais qui touchait aussi l'enfer par tous les problèmes intérieurs, par tout ce qu'il pouvait avoir, lui. Et voilà, j'ai aimé passionnément cet homme.
Vous êtes aussi entré par une sorte de porte de l'enfer, mais je laisserai à nos lectrices, à nos auditeurs, à nos auditrices, à vos lecteurs et à vos lectrices le soin de découvrir par eux-mêmes cette porte de l'enfer qui s'est déroulée dans les années de la fin des années 60, bien avant que la loi de Simone Veil puisse être votée et mise en œuvre. Vous avez épousé un autre personnage, un journaliste de la radio avec qui aussi vous avez vécu des moments assez difficiles. Vous avez été, Bérangère d'Autun, une amoureuse passionnée, passionnelle.
Oh, oui, absolument, absolument. J'ai eu beaucoup d'amour dans ma vie. J'ai eu trois maris, voilà. Et le premier étant Gilles d'Autun, ça a été assez bref. Le second, mariage d'amour, fabuleux, fabuleux, avec mon petit Ludion, mon rouquin. On se ressemblait tellement. On avait même taille, on était roux tous les deux, et c'était mon petit jumeau. Et ça a été un amour totalement, mais passionné. Et jusqu'à cette fin terrible de ce cancer qui nous a, qui a changé notre vie là aussi en enfer. Voilà.
On va s'interrompre quelques minutes pour écouter votre choix musical à nouveau, qui se trouve être La jeune fille et la mort, un quatuor de Franz Schubert. Restez avec nous, on reprend notre conversation avec Bérangère d'Autun Cabrol et on va continuer à égrener cette vie passionnante, cette vie de comédienne. À tout de suite. Toujours sur IDFM, dans l'émission Entre Chiens et Loups avec Claude Lévy, et je suis en compagnie ce soir de Bérangère Dautin-Cabrol, avec qui nous évoquons sa vie avec Christian Cabrol, bien sûr, mais aussi sa vie de comédienne, et j'aimerais qu'on revienne à ses débuts où elle rencontre René Simon, qui était un grand gourou du théâtre à l'époque, et je voudrais lire quelques lignes de votre livre Christian Cabrol, Mon amour, ma lumière. Quand René Simon, homme sec de corps et de visage, aux yeux enfoncés, un regard à la fois furteur et inquisiteur, distribue à chacun ses scènes de concours, son front se plisse, ses mâchoires se serrent, se crispent parfois, et nos cœurs, à nous, frappent comme des gongs dans nos poitrines. L'heure est venue de montrer quel comédien nous sommes. Un moment clé de la vie d'un acteur quand il sort du conservatoire et que l'avenir lui est encore inconnu. « Il veut de moi, » dit Bérangère, « le sourire absolu, l'intelligence, la virtuosité et m'a interdit la tragédie. Chaque acteur est un instrument de musique qui ne doit pas flirter avec, mais être dans l'excellence. Il ne s'agit pas de jouer, mais d'être. » Il ne s'agit pas de jouer, mais d'être. René Simon insiste sur ce point. J'en ferai la colonne vertébrale de mon travail. Bérangère Dautin, comment vous avez traduit ça dans votre vie, dans votre corps, dans votre voix, dans votre course après les rôles ?
Mais tout simplement, il s'agit d'être, c'est-à-dire que de toute façon, tout rôle qu'on joue, il faut aller chercher au-dedans de soi. Et bien sûr, il faut maîtriser la technique, il faut bien maîtriser toutes les phrases qui sont envoyées, que nous devons faire parvenir à tout public, même au poulailler. Mais les phrases ne valent rien si elles ne viennent pas d'un vécu profond. C'est pour ça qu'il faut être. Et c'est une phrase que je retrouve dans un rôle que je joue en ce moment, que je vais jouer en Avignon, Clara Malraux, où elle dit libre peut-être, mais enfin elle dit libre, mais pauvre, enfin elle dit tes conditions de vie, mais être. La richesse, je m'en fous, je m'en contre vous. Être d'abord, c'est être.
Et Christian Cabrol n'aurait sans doute pas démenti ce principe d'exister, d'être et d'être dans l'excellence. Vous passiez avec, en dehors de la chirurgie et du vélo, Christian Cabrol adorait diriger son bateau, barrer son bateau. Et j'aimerais que vous nous lisiez quelques lignes où il est question de vos vacances en Bretagne. Mmh. Voilà, je vous ai sélectionné ce passage-là. Bérangère Dautin.
Nos vacances souvent nous entraînaient en Bretagne où il allait enfin pouvoir naviguer sur son bateau, son bel Astérix de 9,50 m. J'avais bonheur à l'observer, les cheveux et le visage dans les embruns. Allez, la casquette rouge au bord des yeux, protégée par son vieux caban. Sa communion avec la mer était palpable. Il humait chaque souffle, guettait chaque vague jusqu'au bout de l'horizon. Et son corps, arc-bouté, hissant les voiles, tirant et enroulant les drisses. Quel spectacle éblouissant. Mon époux était alors un conquérant, l'enfant ébahi par ce qu'il était en train de vivre et le marin plein d'humilité face à la force des éléments. Le voir à la barre de son bateau, c'était quelque chose. Il semblait tout d'un coup sans limite, je veux dire sans plus de limite terrestre, il devenait aérien.
Magnifique. Quel bonheur d'avoir une comédienne avec ce talent pour à la fois écrire et puis dire. On va encore s'arrêter parce que je crois que vous teniez spécialement à nous faire entendre une musique assez poignante. C'est un extrait de la liste de Schindler de John Williams et j'aimerais que vous nous disiez pourquoi vous aimez tant cette musique.
J'aime tant cette musique parce que d'abord elle va profondément au cœur, mais elle m'évoque toujours ce film en noir et blanc où il n'y a qu'une seule couleur, le petit manteau rouge de la petite fille qui court, et ce même petit manteau rouge, on le revoit presque à la fin du film sur le tas des morts, et ça c'est terrifiant. Ce petit manteau rouge, je l'évoquerai toujours avec la douleur de tant de corps brûlés, dont cette petite fille au manteau rouge.
Thank you.
reprenons notre émission Entre chiens et loups, et je suis bien sûr en compagnie de Bérangère Dautin-Cabrol, qui est, je disais tout à l'heure, qui est le numéro 450 dans la longue lignée depuis... Depuis Molière, hein, 450e sociétaire. La Comédie française a des procédures qui peuvent être un petit peu dures pour certains comédiens, mais bon, on le dira dans le livre. Mais j'aimerais que vous nous parliez un peu du studio Héberto, où vous êtes en quelque sorte la chef d'entreprise et la directrice artistique.
Non, je suis la directrice générale. Je suis vraiment la directrice. La directrice artistique, c'est Sylvia Roux. Mais moi, je suis la directrice générale. C'est moi qui ai tout sur les épaules. S'il arrive quelque chose au studio, Sylvia, pas de problème pour elle. Rien. Pas de problème. Mais s'il arrive quelque chose au studio, toute la responsabilité, c'est moi qui l'ai.
Alors, c'est d'autant plus marquant que la force que vous avez acquise pendant toute votre jeunesse, votre enfance, votre jeunesse au théâtre, c'est cette force-là qui vous donne cette capacité à 80 ans, je répète, de faire face à toutes les difficultés.
Oui, il n'y a pas que ça. Je vais dire que c'est ma... De toute façon, il fallait... Sylvia, qui en était directrice, a été attirée par d'autres choses, dont notamment l'écriture, et elle m'a demandé d'en prendre la direction, et parce qu'elle voulait faire autre chose. Et donc, il fallait sauver le bébé. Donc, je me suis attelée à prendre le comme Christian l'aurait fait avec la barre d'Astérix. J'ai pris la barre du studio Héberto, parce qu'il le fallait, sinon cet endroit. Vous avez vu cette scène, il n'y a nulle part cet appel que nous avons entre la cage de scène et cette immensité, cet appel d'air qui est égal à ce qu'un dernier spectateur là-haut. Donc c'est un lieu unique que je voulais sauver et j'ai bonheur à en tenir le gouvernail, mais je ne suis pas seule. J'ai un très bon administrateur, Benoît Dugas, j'ai une directrice financière même exceptionnelle qui s'appelle Marie-Pascale Velay et j'ai une
régie
qui s'appelle dans les régisseurs évidemment notre cher Alfred, mais celui qui s'occupe de les choses Internet, tout ça, comment on appelle ça?
Ah oui, le webmaster.
Oui, ben voilà, le webmaster qui est aussi extraordinaire, qui s'appelle Arnaud. Donc, je suis extrêmement bien entourée. Voilà, je suis très aidée.
Alors, je voudrais, vous avez parlé de la barre d'Astérix. Je voudrais, avant de terminer, vous laisser dire quelques lignes encore de votre livre consacré à Christian Cabrol. Et c'est aux marins que ces lignes s'adressent. Et lorsque vous partez vers le sud en voiture. Oui. Est-ce que je peux vous laisser lire ces lignes ?
Cet été, Christian, mon amour, je partirai toutefois seul pour la gare de Guérin et je conduirai. Quand le sommeil me gagnera, je t'appellerai. Titan, Titan, aide-moi. Je marquerai une pause là où nous nous arrêtions et avalions un sandwich. Je dirai aux oiseaux que tu n'es pas là pour les nourrir. Je contemplerai ce village médiéval que nous avons contribué à faire revivre. Je m'émerveillerai devant ce paysage où l'homme est absent. Et je m'assierai au pied de la grande croix pour qu'elle me protège. Je penserai à ce conte de Jules Supervielle, l'enfant de la haute mer, en plein océan. L'amour puissant d'un père avait recréé son village de Steenworld où sa fille allait et venait dans leur maison. Je satisferai chaque jour au même rituel, ouvrir et fermer les volets, frotter la grande table cirée, arroser les fleurs devant la maison, les rues de Bekia, ces soleils jaunes dont les racines poussent toujours plus loin. Je me saoulerai de l'air si pur de la région. Je relirai Rilke, Claudel, Shakespeare, j'écouterai Bach et Mozart, j'irai marcher dans les coins et recoins secrets où Christian, t'en souviens-tu ? Tels les adolescents, craignant d'être surpris, nous avons échangé des baisers. J'enlacerai le tronc des arbres en me racontant que je me colle contre toi.
Un immense merci. Merci Bérangère Cabrol pour cette évocation de votre mari, de votre histoire d'amour avec lui, que l'on retrouve dans ce livre merveilleux de mémoire d'une comédienne, mémoire d'une voyageuse, mémoire d'une amoureuse, mémoire d'une femme, tout simplement. Merci pour cette émission passionnante, pour votre immense carrière de comédienne. Merci pour votre amour vécu avec Christian Cabrol, deux merveilleuses personnes, vous et lui. Merci à Francky qui a réalisé cette émission, que vous pourrez retrouver en podcast sur le site de la radio idfm98.fr. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h pour une nouvelle émission Entre Chiens et Loups. D'ici là, portez-vous bien, merci de votre fidélité et bonne soirée à l'écoute de nos programmes sur IDFM. Merci encore Bérangère.
C'était un grand bonheur de revivre avec vous toutes ces heures de ma vie si intense, et que j'ai écrit ça pour que toute personne, femme, homme, enfant, adolescent, puisse dire ça vaut la peine de vivre, tout est toujours devant. Voilà, faut vivre parce que l'inconnu nous attend toujours. Il faut toujours croire et espérer.